France Bleu Paris, découverte. Laurent Petit-Guillaume.
Merci d'avoir choisi France Bleu Paris Découverte, votre rendez-vous avec l'actualité des spectacles, des événements sur Paris, sur la région parisienne. Et aujourd'hui, on va vous donner envie, si c'est pas déjà fait, d'aller visiter un autre monde, de voyager au pays de ceux et celles qui, chaque jour finalement, nous nourrissent. Et oui, un monde qui vit à 100% lorsque nous dormons. Une planète de légumes, de fruits, de viande, de poissons, de fleurs, en résumé, de produits frais. C'est comme ça depuis 50 ans. Bref, aujourd'hui, on va vous donner... Et on va vous raconter le marché, vous donner envie de visiter, et on va vous raconter le marché international de Rungis, installé depuis mars 1969 à Rungis, dans le Val-de-Marne. Et pour cela, nous sommes avec monsieur Stéphane Layani, président du marché international de Rungis, et Thibaut Manchon, directeur de Cultival.fr, qui vous propose des visites guidées de Rungis. Bonjour messieurs. Bonjour monsieur le directeur,
bonjour monsieur le président.
Bonjour à vous. La classe, un président et un directeur, franchement. Bon, merci d'être là, effectivement. Quelle est l'histoire du plus grand marché de produits frais au monde? Pourquoi s'est-il installé en 1969 dans le Val-de-Marne? Comment visite-t-on ce lieu qui peut faire rêver? Comment s'organise la vie à Rungis? On veut tout savoir. Alors avant d'aller visiter, aujourd'hui on va vous expliquer que c'est possible avec Cultival.fr bien sûr. Moi je voulais qu'on comprenne un peu l'organisation, pourquoi on a installé ce fameux endroit il y a 50 ans maintenant, alors que tout le monde le sait, avant c'était les Halles de Paris. Enfin, pour ceux qui ne le savent pas, c'est là où il y a le Forum des Halles maintenant, hein, bien sûr. C'est là où se trouve le Forum des Halles, oui, c'est ça. Et depuis ces années 60, cette année 69, effectivement, Rungis est là-bas. Pourquoi d'abord est-ce qu'il a fallu déménager? Je pose la question peut-être au président.
En fait, ça a été l'histoire éternelle des Halles de Paris, puisque les Halles de Paris, on ne le sait pas, c'est aussi le marché le plus vieux du monde. Puisqu'elles ont été créées en 1159 par un roi de France qui s'appelait Louis VI le Gros.
Ouais.
Pas mal pour les grossistes,
ouais, Louis VI le Gros.
Et donc, elles ont beaucoup déménagé. Au début, elles se trouvaient place de Grève.
Ah oui, là où il y a l'hôtel de ville alors.
Voilà, exactement. Et puis à un moment donné, sous Philippe Auguste, on les a déplacées au Champeau. C'est là où il y a la Fontaine des Innocents à Paris.
Ah d'accord, donc là on est et
puis,
dans les Halles.
Ensuite, en 1853, Napoléon III, qui venait d'Angleterre, voulait faire quelque chose d'extraordinaire. Il a demandé des parapluies de métal et de verre. Il avait vu le Crystal Palace. Ah, il a construit 10 pavillons, c'était déjà énorme à l'époque, en 1853, qui sont les Halles Baltar. Et ça a duré... jusqu'au début du siècle dernier. Et au début du siècle dernier, c'était déjà, avec l'arrivée de l'automobile, totalement embolisé. Il y avait des embouteillages terribles. Et en 1942, le Conseil national de la Résistance dit non, ça n'est plus possible, on va essayer de déplacer les Halles de Paris. Donc c'était un vieux projet. Et la 4e République est incapable, de 1945 à 1958, est incapable de déplacer les Halles parce que ils ont à reconstruire la France, c'est très compliqué. Mmh. Et quand le général de Gaulle arrive, en 1962, il demande à Michel Debré, qui est son premier ministre, de faire un marché tout neuf, en dehors de Paris, parce qu'on ne peut plus se déplacer dans le centre de Paris.
C'était terrible. Enfin, c'est l'été, on le sait, il y a des témoignages, il y a des films.
Et puis c'était terrible du point de vue sanitaire, c'était très sale... Peu de pavillons étaient sous froid, c'était difficile, il y avait un mélange entre le gros et le détail. Et donc, en 69, vous avez raison, on fait enfin le grand déménagement du siècle. Ça a mis du temps, parce qu'on a commencé les travaux en 65, le déménagement était prévu en mai 68.
Ah, ça tombe. Là, on a compris pourquoi
ça tombait mal.
C'est quand je suis né, c'est pour
et
ça.
Et donc, ça c'est une bonne date. Et donc, en fait, c'est le 3 mars 69, c'est-à-dire il y a 15 jours et 50 ans, que le déménagement a eu lieu. Et ça s'est passé, on avait très peur, c'était très compliqué. Il y avait des convois militaires qui étaient prévus,
dingue, fou,
etc.
Fou.
En fait, ça s'est passé, comme toujours, merveilleusement. D'ailleurs, les Français, ils sont incroyables. On a fait le passage à l'euro. Sans rien dire. Là, on vient de faire le prélèvement à la source.
Ah oui, c'est vrai.
Personne n'en a parlé sans rien dire.
Parce que c'est passé comme une
lettre
à la poste.
Bravo, les Français.
Il y a le passage de l'an 2000 sans bug.
Oui, c'est vrai.
Et donc, Le grand déménagement du siècle s'est passé assez facilement, même si les grossistes, eux, n'étaient pas contents de partir de Paris.
Justement, alors on a vu des dizaines de reportages d'époque, parce que finalement, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, 69. Donc il y avait un folklore, il y avait une vie dans les Halles, il y avait tout un tas de... On va dire c'était un peu exotique pour ceux qui travaillaient là. Il y avait sans doute des racines fortes, émotionnelles, quand les Halles de Paris, c'était quelque chose. Il y a plein de témoignages de gens qui ont bossé là-bas.
Une vraie institution, oui.
Et c'était fou, quoi. Les bouchers avec leurs restaurants qui parlaient louchébème, etc. Enfin, il y avait vraiment un truc fou. Et là, on leur dit de déménager. C'est mal passé. Vous dites que les grossistes, ils
l'ont mal compliqué. Vu. D'abord, il y avait des histoires de gros sous. Parce que, évidemment... quand vous déplacez une entreprise, il y a un affectio societis, il y a du terrain, il y a des droits. Et donc, mon prédécesseur de l'époque, Liberbou, a su très bien faire tout ça. Il a eu deux idées fondamentales. La première, c'est qu'il a commencé à construire la marée au bord de l'autoroute A6. Alors, donc, quand les gens, c'était la grande époque des week-ends à la campagne, quand les gens rentraient du péage de Saint-Arnoult, ils voyaient ce grand pavillon de la marée en train de se construire. Donc, ça allait se faire. Ah oui, c'était sûr. Oui, oui. Et la deuxième chose, c'est qu'il leur a dit, écoutez, il faut payer un droit pour venir à Rungis. Un droit de première accession. Mais pour les gens qui viendront des Halles de Paris, ça sera gratuit. Et donc ça, quand vous parlez comme ça à des commerçants, vous leur parlez clair.
Bon, alors on va visiter ce lieu, c'est possible, je le rappelle, avec un guide grâce à cultival.fr, c'est cocasse. Faut juste se lever tôt. À quoi faut-il s'attendre? Quels sont les lieux pittoresques que l'on va pouvoir découvrir? Comment décrire la vie à Rungis? On va continuer à parler de ça avec nos invités juste après ça.
France Bleu Paris. We'll be right back.
Taïa Finkam, Sexy et Rod Stewart sur France Bleu Paris.
France Bleu Paris, découverte.
C'est ça l'histoire. Dans la nuit du 2 au 3 mars 1969, 20 000 hommes et femmes, 5 000 tonnes de marchandises, 10 000 mètres cubes de matériel, 1000 entreprises, 1500 camions ont parcouru le chemin des Halles de Paris à Rungis. C'était il y a 50 ans et quelques jours. Et aujourd'hui, Rungis est le plus grand marché de produits frais au monde. On le visite grâce à Cultival. Et on en parle aujourd'hui avec nos invités, Stéphane Layani, président du marché international de Rungis, et Thibaut Manchon de Cultival.fr. Bon, Thibaut, je m'adresse à vous. Si je m'inscris sur le site cultival.fr, ce que je fais régulièrement, je choisis de visiter et de goûter l'expérience Rungis. Qu'est-ce qu'on va me proposer, Thibaut ?
Alors d'abord, félicitations pour ce bon réflexe d'aller sur le site.
Ah, c'est pour préparer l'émission. Hein.
D'abord, il faut que vous leviez tôt, hein, oui, Laurent, parce que c'est un départ à 4h du matin à Place d'Enfer Rochereau. Mm-hmm. Où on vous amène, vous arrivez à 4h30 sur le marché de Rungis, donc à cette heure-là ça roule. Donc une demi-heure est amplement suffisant pour joindre Rungis. Et puis ensuite, ben, c'est 3 heures de visite au sein du marché avec différents pavillons. On commence par le pavillon de la marée,
oui,
parce que c'est celui qui clôt le plus tôt.
Oui, qui se lève le plus tôt,
enfin qui se lève le plus tôt et qui ferme le plus tôt également. Donc c'est un monde qui est tout à fait incroyable. Alors on va pas fouler le sol du pavillon de la marée parce que c'est quand même c'est extrêmement actif et donc voir ça peut être dangereux. Mais il y a une passerelle qui permet de surplomber ce pavillon.
Comment ça c'est dangereux? Parce que ça glisse, parce que c'est mouillé.
Parce que ça glisse, parce et puis il y a des caristes qui sont là et puis ça se transporte et puis voilà, c'est le marché fini, donc il y a une effervescence qui est folle et faut pas perdre des gens au milieu. Donc il y a une vue qui est absolument splendide, une odeur évidemment extrêmement forte et prenante et séduisante, parce que voilà, c'est la mer qui s'ouvre à nous et c'est un pavillon, donc le pavillon c'est immense, c'est vaste, c'est large, ça grouille de monde entre les acheteurs, entre les grossistes, c'est assez étonnant. Et puis ensuite on va vous emmener dans d'autres pavillons, le pavillon de la viande, le pavillon de la volaille, la triperie, où là vous allez découvrir un contraste un petit peu différent de couleurs déjà
et
évidemment,
et d'odeur,
et puis de rythme. Les rythmes ne sont pas les mêmes. Et ensuite, on va aller dans le pavillon des fruits et légumes, quoi, dans un des 9 pavillons de fruits et légumes.
Ouais.
Et là, c'est assez étonnant parce que ce sont des couleurs très contrastées. C'est beau. Moi, je trouve ces pavillons magnifiques.
Ah oui,
les cajous sont empilés avec talent. Et puis, vous avez tous les fruits et légumes du monde entier qui sont venus soit par train, parce que 20% des approvisionnements se font par rail, hein, donc ils viennent par train, qui sont venus par bateau, qui sont venus par voie terrestre, et c'est étonnant parce que bah, vous avez accès à tout et ça met vraiment un appétit.
Il y a les fleurs aussi.
Et voilà, et ça se finit par les fleurs, hein, les fleurs coupées, le pavillon des fleurs coupées, qui est un pavillon en fait qui existait aussi déjà à l'époque des Halles. Et bon, là où vous finissez avec une odeur un petit peu différente. Et quand je dis vous finissez, c'est pas tout à fait fini, puisque ensuite on va vous proposer de goûter un petit déjeuner rungissois dans un des 19 restaurants du marché de Rungis. Et puis bah, alors là vous êtes, il est 7h45 du matin, et puis vous attaquez à un petit déjeuner qui est digne de ce
copieux,
nom en fait,
ouais.
Copieux tout à fait, avant de reprendre le car et puis regagner Paris vers 10h.
D'Enfer Rochereau. Incroyable.
Donc une bonne matinée.
Vous l'avez déjà fait plein de fois, vous, Thibault?
Alors moi, j'ai fait plein de fois.
Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Qu'est-ce qui vous fascine le plus?
Moi, ce qui me fascine le plus, oui, c'est les... Alors, j'ai pas parlé des fromages.
Mais bah oui, quand même.
Mais j'aurais pas oublié. Mais les fromages m'ont étonné parce qu'en fait, il y a vraiment des lieux de stockage de fromages, des caves qui sont sous le pavillon et avec des meules entières. C'est assez étonnant à voir. 400 sortes de fromages différents. Et moi, je suis passionné en fait par ces mélanges de passion, en fait de passion même de ces grossistes qui ont vécu souvent de père en fils, des histoires de génération, des histoires de famille, des histoires. Nous, on a commencé à faire visiter des coulisses de théâtre, si vous voulez. Donc, les coulisses de théâtre, c'est pareil. C'était des gens qui ont transmis des savoir-faire de père en fils avec des métiers extrêmement nobles. Et là, c'est pareil. Je retrouve un petit peu ces plaisirs. Et puis, ils peuvent vous en parler pendant des heures entières sans se répéter une seule fois et vous transmettre cette envie d'aller de l'avant, de goûter, de connaître, de rencontrer. C'est des profils assez captivants aussi à voir.
Président Layani, tout ça c'est votre quotidien. Bon, je ne sais pas si vous allez tous les matins voir si la marée est haute.
Assez souvent quand même.
Est-ce que vous prenez un petit déjeuner ringissois tous les matins?
Je prends souvent un petit déjeuner ringissois et je dois dire que ça met en forme parce qu'une bonne tête de veau.
Mais bien sûr.
Avec ses légumes, une bonne salade de fruits, un vrai verre de jus d'orange.
À 7h du matin.
Un petit verre de Saumur ou de Bourgogne pour commencer la journée.
Avec modération, tout ça.
Bien sûr.
Ou ben après, au bureau, je sais pas, faut être très actif après.
Regardez dès le lundi matin la forme qu'il tient, il n'y a pas de secret.
Ouais, c'est vrai. Monsieur Layani, avant de développer une journée et une nuit type à Rungis, on peut parler de Rungis sans chiffres. Alors aujourd'hui, ce marché s'étend sur quelle surface?
Je voudrais d'abord rebondir sur les visites. Parce que c'est très important de comprendre que d'abord, les visites sont contingentées. Parce que quand je suis arrivé à Rungis, c'était un peu n'importe quoi en matière de visites.
Ah, d'accord.
Et en fait, c'est un marché de professionnels. Il n'y a que des professionnels qui vendent à des professionnels, des détaillants, des bouchers, des primeurs, des fromagers, des fleuristes. Et donc, on a fait un appel d'offres. J'ai fait appel à Thibault, de façon à ce qu'il n'y ait pas plus de 25 000 visites par an. Il n'y en a pas plus. Donc c'est un privilège d'aller visiter Rungis. C'est une chance. Il faut aller via Cultival sur visiterungis.com. Et je trouve que c'est une expérience inouïe que Cultival et Rungis offrent aux gens. Et franchement, pour voir le plus grand marché du monde, 3 millions de tonnes de produits, tous les produits du monde, plus d'un million de références, 9 milliards de chiffres d'affaires, des professionnels qui savent se lever tôt, qui ont le cœur à l'ouvrage, qui aiment travailler avec la bonne humeur, les 19 restaurants du marché, le Saint-Hubert, l'Arrosoir, la Marée, tous ces beaux restaurants de Rungis, la cantine du Troquet, on y passe un bon moment. Ils sont tous ouverts à tout le monde, ces restaurants.
Ça marche bien, Thibault, la visite cultival.fr à Rungis. Qui vient d'ailleurs? Des Franciliens qui veulent en savoir plus parce que c'est à côté de chez eux, mais bon, voilà, c'est mystérieux, ou des Japonais après la Tour Eiffel?
Alors, non, pas trop d'Asiatiques encore pour le moment, mais en fait, nous privilégions la filière qui est intéressée par Rungis, c'est-à-dire les écoles, de restauration, écoles d'hôtellerie,
bien sûr.
La formation, la transformation, la distribution, donc toutes ces têtes blondes, quoi, elles sont plus très blondes, mais dans la pratique, ils sont intéressés à savoir, à connaître d'où viennent les denrées, et puis les Franciliens sont très intéressés, donc que ce soit les seniors ou les groupes scolaires, on fait beaucoup de groupes scolaires dans la pratique parce que c'est quand même l'histoire. Émile Zola appelait ça le ventre de Paris.
C'est vrai.
Mais c'est vraiment l'histoire, c'est notre quotidien, c'est des choses que l'on voit. Il y a beaucoup de discussions aujourd'hui qui sont faites autour de la gastronomie, du développement durable, de l'environnement, de la qualité des produits. Et c'est vraiment un sujet d'actualité plus que jamais.
Et combien de salariés qui viennent chaque jour travailler à Rungis?
C'est une ville, il y a 12 000 salariés, et ça va du transporteur, en passant au découpeur, au commercial, aux administratifs. On a toutes sortes d'activités, il y a des activités qui sont liées aux produits, et puis il y a aussi tout ce qui fait que Rungis est un écosystème, c'est-à-dire que on a notre centre médical, les accessoiristes,
le coiffeur,
évidemment les cafés, les restaurants. Et franchement, c'est un monde à part, merveilleux, très attachant, aussi attachant qu'il y a 50 ans.
Alors comment s'organise une vie à Rungis, la nuit, le jour, que se passe-t-il? Quels sont les codes dans les plus grands marchés de produits frais au monde? Et qu'est-ce que le Saint-Hubert, on va en reparler d'ailleurs, c'est un lieu stratégique à Rungis. Vous aurez tout ça dans la suite de France Bleu Paris Découverte, juste après Accès Privé, une petite balade qu'on fait tous les jours dans un lieu inédit. On va quitter Rungis quelques instants avec Héloïse Erignac. On ira dans un endroit très particulier du musée du Quai Branly. À tout de suite.
France Bleu Paris.
Il faudrait être des dieux, il faudrait être fort, comme si mouiller des yeux, c'est pour ceux qui ont tort. Il faudrait danser et cacher sa douleur, être le dernier à pleurer, jamais montrer sa peur. Il faudrait être des rois,
il faudrait faire le fier, comme si baisser les bras, c'est pour celui qui perd. Il faudrait cogner et puis bomber la torse, être le premier à crier plus fort. Mais que Dieu me pardonne, j'ai tout fait à l'instinct. Moi je ne suis qu'un homme, peut-être un bon à rien. Mais que Dieu me pardonne, j'ai le cœur sur la main. Si parfois j'abandonne, c'est pour faire mieux demain. Il faudrait être un génie, être une onde à la joie, à chaque fois qu'on nous dit, et toi comment tu vas? Il faudrait pousser tous ceux autour de soi, être le premier à crier, regardez-moi. Mais que Dieu me pardonne, j'ai tout fait à l'instinct. Moi je ne suis qu'un homme, peut-être un bon à rien. Mais que Dieu me pardonne, si parfois j'abandonne, c'est pour faire mieux demain.
Dieu me pardonne, la nouvelle chanson de Claudio Capéo en compagnie de Kenji Girac.
12h-13h, France Bleu Découverte. Vous ne verrez plus Paris comme avant.
France Bleu.
Bonjour tout le monde.
À 16h sur France Bleu Paris, prenez donc Franck Duré en covoiturage.
Voyager dans le temps et dans l'espace, c'est possible. Avec France Bleu Paris, ce lundi, nous irons à la Villette pour parler de Toutankhamon, le trésor du pharaon. Très belle exposition à découvrir. Parce que quand ça se passe chez vous, nous allons y faire un tour avec vous.
Ça vaut le détour sur France Bleu Paris, 16h-19h.
Le Crédit Mutuel donne le la au 2e France Bleu Live Festival. Rendez-vous aux Deux Alpes du 17 au 19 avril pour 3 affiches 100% live avec Jennifer, Gims, Pascal Obispo. France Bleu vous invite du 13 au 20 avril. Une semaine pour deux. Le transport, les forfaits, la location des skis et bien évidemment l'accès aux 3 concerts. Jouez toute la semaine avec France Bleu et sur francebleu.fr et gagnez votre semaine de vacances aux Deux Alpes pour le France Bleu Live Festival.
Live
sur France Bleu.
France Bleu.
France Bleu Paris.
France Bleu.
Midi 32, vous écoutez France Bleu Paris et tout de suite c'est Accès Privé avec Héloïse Erignac au musée du Quai Branly. Le musée entreprend aujourd'hui une campagne de mécénat participatif pour la restauration de sa collection d'instruments de musique, figurez-vous. Alors Héloïse nous fait découvrir cet atelier, un atelier de restauration. Elle est avec Éléonore Kissel, responsable du pôle conservation-restauration du musée, et Emmanuel Cassarerou, qui est l'adjoint au directeur du patrimoine et des collections, responsable notamment de la coordination scientifique des collections.
Nous sommes à l'atelier de restauration du musée du Quai Branly, un atelier d'environ 350 mètres carrés. Les restaurateurs sont comme les médecins, ils sont répartis par spécialité, art graphique, photographie, peinture, textile, sculpture. En l'occurrence, nous sommes devant des instruments de musique qui seront traités par des restaurateurs d'objets ethnographiques. Ils sont en blouse blanche, c'est très impressionnant. D'ailleurs, on a dû laisser nos manteaux à l'extérieur. Pourquoi ? On fait en sorte qu'il n'y ait pas trop de manteaux et de gants et d'écharpes venant de l'extérieur qui entrent dans l'atelier de restauration. Ça fait partie des protocoles de lutte contre les infestations biologiques qui sont tout à fait classiques dans un atelier de restauration de musée. Alors, les objets que nous avons sortis aujourd'hui nous permettent de vous présenter quelques-uns des aspects de la campagne de stabilisation des instruments de musique qui va faire l'objet d'une campagne de mécénat participatif intitulée « Plaisamment monter le son ». Ce tambour est rentré en collection dans les années 30, un tambour indien qui présente la particularité d'avoir une caisse de résonance en céramique autour de laquelle est tendue une peau à l'aide de tendons. Et cette tension a généré des fractures, des fêles au niveau de la caisse de résonance en céramique. Un tambour qui vient du Groenland, qui a été collecté en 1934 lors de la collecte de l'expédition à laquelle a participé Paul-Émile Victor. Et c'est un tambour avec une peau assez fine, tendue sur un cadre de bois. Un tambour sur cadre.
Il est très abîmé, la peau est très déchirée.
Oui, sur des objets comme cela, on va travailler essentiellement avec un scalpel, avec des poids, avec des vaporisateurs, des petites spatules, avec des adhésifs qui sont des adhésifs que l'on maîtrise et dont on connaît le vieillissement dans le temps. Lorsqu'on est dans une problématique de peau tendue, il peut arriver que l'on mette en place ce que l'on appelle une chambre d'humidification. Il faut imaginer une sorte de tente et à l'intérieur de cette enceinte, on va augmenter progressivement l'hygrométrie en la contrôlant de manière à ce que la peau puisse se détendre pour qu'on puisse ensuite réintervenir dessus, en particulier lorsqu'il s'agit de les remettre dans le plan. Sur cet autre tambour que vous voyez ici, qui est un tambour chamanique sibérien, vous voyez qu'il y a déjà une réparation ancienne qui est une trace d'usage. Celui-ci est entré en collection en 1887 et c'est un objet qui est utilisé dans un cadre rituel. Peut-être Emmanuel peut vous en dire plus.
Donc c'est une population qui s'appelle les Evinks, c'est une population sibérienne. En haut de ce tambour, on voit une représentation d'un soleil. En bas, on voit une représentation d'un croissant qui pourrait être la lune. Les rennes noires, c'est plutôt le chemin de la nuit, le chemin du monde, des mondes souterrains. Quant aux rennes rouges, ce seraient les rennes du cheminement du soleil. Il met en jeu toute une représentation du monde et pour le mettre, le faire chanter, le faire parler, on a deux baguettes différentes. Chacune renvoie soit au monde de la nuit, soit au monde du jour, et en fonction de celle de la baguette utilisée, j'imagine qu'on met en branle ces puissances auxquelles on essaie de s'adresser.
Le musée du Quai Branly, Jacques Chirac, sollicite, on l'a entendu, donc le grand public pour la sauvegarde de 130 instruments de musique particulièrement vulnérables. Vous retrouvez bien sûr la campagne Montez le son sur la plateforme de financement participatif Ulule, et puis n'hésitez pas bien sûr à apporter votre contribution, même modeste, à ce beau projet, et puis vivez un moment, un véritable voyage à travers le monde et ses civilisations en visitant ce très beau musée, le musée du Quai Branly.
France Bleu Paris, découverte. Laurent Petitguillaume.
Et à demain. Héloïse, si vous nous rejoignez, vous écoutez France Bleu Paris Découverte. Aujourd'hui, on visite Rungis avec Cultival, cultival.fr, représenté par Thibaut Manchon, directeur de Cultival, et M. Stéphane Layani, président du marché international de Rungis. Tout le monde connaît l'oignon, le nom de ce lieu qui, depuis 50 ans cette année, nous permet, bah oui, c'est vrai, de consommer chaque jour des produits frais. Mais comment s'organise la vie de ce marché où chaque jour, combien de personnes déjà viennent travailler chaque jour, monsieur le président ?
12 000 salariés
viennent travailler. On va en parler maintenant. Alors, comment ça vit, Rungis ? Ça ouvre, ça ferme ? Il y a des horaires ?
D'abord, on travaille pratiquement 24 heures sur 24. Oui. Ça ne s'arrête jamais. Contrairement à ce qu'on peut penser, le pic de l'activité est la nuit, mais les premiers camions arrivent vers 22, 23 heures.
Oui, c'est la marée, ça.
Et la marée, la mise en place se fait de minuit à 2 heures et les ventes commencent à 2 heures.
Et puis ensuite, ça s'étage tout au long de la nuit, à 3h30, la triperie, à 4h30, la viande, à 5h, les fruits et légumes, et puis en fin de matinée, il y a encore les fleurs, l'horticulture et la décoration. Et puis après, il faut nettoyer le marché.
Ah oui, ça c'est
on
dans la.
On oublie toujours cet aspect trivial des choses. Il faut que ça soit nickel, puisqu'il y a des pavillons qui sont sous agrément sanitaire, et donc on nettoie le marché. Et on a peut-être une petite pause vers 7-8 heures le soir.
7-8 heures le soir. Voilà, on ferme un peu et on éteint les lumières, mais on les rallume très très vite. Est-ce qu'il y a un service de transport particulier pour les gens qui viennent bosser la nuit? Je me suis posé cette question. Ou ce que chacun vient par ses propres moyens?
Ça, c'est un vrai sujet. Et c'est pour ça qu'on est très, très favorable à ce qui est fait sur le Grand Paris. Mais on espère qu'effectivement, la RATP ouvrira la nuit la ligne 14 qui va arriver à Rungis. Parce que sinon, ça posera un problème quand même. Non, en fait... les seuls transports en commun qui existent, ce sont les noctiliens, en fait, la nuit. Et après, évidemment, très tôt, et pour les personnels administratifs, c'est très important, il y a le TVM, le tramway et les bus.
Est-ce que, alors Rungis, on le disait, c'est une véritable ville tout à l'heure avec ses institutions. Il y a effectivement un service pour le médical, un coiffeur, plein de cafés-restaurants. Et alors, il paraît que le Saint-Hubert est le lieu qui sert sans doute le plus de cafés en France. Ça ressemble à quoi le Saint-Hubert? C'est un bar immense,
c'est une brasserie immense. Un vrai café parisien avec son comptoir, un grand comptoir et énormément d'hommes en blanc avec des blouses parfois un peu tachées, souillées, où se retrouvent les bouchers et les grossistes en viande et en volaille. C'est à la volaille et c'est fort. Il y a une ambiance à tout casser. C'est un jeune, Guillaume Soulin, qui le gère et qui le gère de main de maître. Vraiment, toute l'équipe vous sert un petit déjeuner traditionnel avec des croissants, du jus d'orange et ils font plus de 4000 cafés par nuit.
Ah oui, voilà, c'est ça. Thibaut Manchon, vous nous racontez que c'est effectivement un lieu où il y a des odeurs, où il y a des bruits, où les gens sont là depuis certaines générations. Connaissez-vous le plus ancien employé, salarié de Rungis?
Pour moi, le plus ancien, d'abord c'est un ami, c'est Guy Échalier, c'est l'ancien président de la viande. Il a 96 ans cette année.
Waouh.
Il est extraordinaire, il travaille encore.
Mais non.
Il est tous les matins à 6h du matin.
Mais non.
Au marché,
il
est président de Mécaringis, c'est-à-dire la caisse centrale de la viande, et le type est d'une intelligence extraordinaire, parce que on vient de faire la plus grande table du monde pour fêter les 50 ans de Rungis.
2000 et quelques personnes.
Et il vient me voir, président, évidemment, il a eu une vie au hall de Paris, et il me dit... Vous faites la plus grande table du monde dans le pavillon A2, A3, mais il va faire froid, on peut pas faire... Et il m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je chauffe les pavillons pour cette plus grande table, sinon ça n'aurait pas été confortable.
Combien donc, déjà de convives?
On a eu 2250
voilà,
convives.
Voilà, c'est ça. Guinness Book des records. Allez, pour voir, pour sentir, ressentir, comprendre la planète Rungis, il y a des visites guidées, je le rappelle, cultival.fr, allez jeter un coup d'œil. Je vous en propose une, bon, il faut se lever tôt, mais c'est pas grave, c'est fascinant, c'est formidable. On a parlé de Rungis aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de Rungis, le Rungis de demain. On va faire ça dans 3 minutes.
France Bleu Paris.
France Bleu. Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet. Stuck and running from your bullets.
far away from here. We left the floor and we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullets? The bullets. Just stop your crying, it's a sign of the times. We gotta get away.
Sign of the Times, Harry Styles sur France Bleu Paris.
12h-13h, France Bleu Découverte. Vous ne verrez plus Paris comme avant.
Et on revient juste après ça.
France Bleu.
Hello.
Tous ceux qui font bouger les choses sont dans une heure en France.
Vous aimez le vélo? Ça tombe bien, on visite l'expo Maillot Jaune à Nice. On déguste des pâtes faites avec des résidus de brassage de céréales et on s'émerveille face à un vitrail de la ville de Troyes qu'on croyait disparu et qui a ressurgi.
Frédéric Le Ternier, Denis Farou, une heure en France sur France Bleu, dès 13h.
France Bleu Paris.
C'est le plus grand, c'est plus grand que Monaco. Tiens, voilà, c'est une bonne, pour vous faire une idée, c'est plus grand que Monaco. Ceux qui y travaillent parfois depuis très longtemps, on en parlait à l'instant, disent que c'est une famille. Rungis, c'est un quinquagénaire en pleine forme qui nourrit chaque jour, qui nous nourrit chaque jour, à la maison, au restaurant, dans nos commerces, évidemment, Rungis. Rungis, ça se visite grâce à Cultival, je le rappelle. Mais comment Rungis évolue? L'évolution, c'est quoi? On en parle également aujourd'hui avec Stéphane Layani, président du marché international de Rungis, et Thibon Manchon de Cultival.fr. Comment Rungis se projette-t-il dans l'avenir? C'est quoi le plan Rungis 2025, président?
Oui, si on a traversé les 50 ans en bonne santé, c'est qu'on s'est toujours adapté. Les commerçants s'adaptent toujours. C'est quoi le plan Rungis 2025? La population parisienne grossit. Mm-hmm. Les besoins alimentaires augmentent. On a une croissance qui est merveilleuse depuis 6 ans, qui est bonne en mal an, 2 à 3% par an. Et donc, il faut absolument créer des surfaces nouvelles, densifier, créer des offres nouvelles pour s'adapter aux besoins du consommateur. Donc, on s'est adapté, on a fait le premier pavillon bio, la plus grande halle bio d'Europe. Là, on s'aperçoit que le cochon marche très bien, on va livrer le nouveau pavillon du cochon l'année prochaine, et ça sera formidable dans la qualité, dans la sécurité. Et puis, bien sûr, il faut de plus en plus des solutions prêtes à manger. Et donc, on est aujourd'hui dans des solutions qui permettent aux gens de vivre leur vie normalement. Bien sûr, il y a la tradition, bien sûr, il y a les terroirs, mais il y a également la marketplace Rungis, qui est une solution formidable.
C'est-à-dire ?
Oui, nos grossistes, ils vendent avec un crayon et un papier, mais ils peuvent également vendre leurs produits sur une marketplace, sur un site internet qui s'adresse qu'aux professionnels. Et vous trouvez tout Rungis sur rungismarket.com. Donc ça, c'est formidable.
Le restaurateur du coin, s'il a besoin de quelques filets de sole, il va aller sur le site, il va commander ses filets de sole et on va lui livrer dans la matinée.
Exactement.
Pratique.
Exactement. Ça, c'est vraiment une évolution fondamentale des métiers. C'est qu'on s'aperçoit que tout se digitalise et sur le marché, il y a de plus en plus de gens qui ont des tablettes. Ouais. Et chez nos commerçants, il y en a de plus en plus qui sont digitalisés. Et donc le commerce de proximité, lui aussi, se modernise.
Bien sûr, tous les commerçants ont ça. Donc ça veut dire que ça va s'agrandir un petit peu, Rungis, qui a, je l'ai compris maintenant, et depuis quelques années, du bio qui fonctionne plutôt bien, de plus en plus, on est bien d'accord. Le cochon, vous avez dit que ça marchait bien, ça va continuer à se développer, tant pis pour les cochons. Est-ce que le Rungis, on le disait tout à l'heure encore une fois, c'est une famille, est-ce que les enfants, les petits-enfants prennent la relève ou est-ce qu'il y a
Il y a les deux
demande, est-ce qu'on peut aller...
D'abord,
on recherche des gens, on peut trouver du boulot à Rungis.
On est en besoin d'emploi, hein, on recrute, hein, et donc pour des gens qui en veulent, on peut facilement trouver de l'emploi à Rungis, notamment en passant par le groupement d'employeurs. On a un groupement d'employeurs qui groupe tous les employeurs de Rungis et qui recrute des gens. Et par ailleurs, on le dit pas assez, mais Rungis, c'est un ascenseur social. C'est même un monte-charge social. C'est-à-dire que très souvent, les entreprises sont transmises au meilleur commercial, au meilleur vendeur de l'entreprise. Mais il y a aussi de la transmission d'entreprise pour les jeunes. Mmh. Et les vieilles familles de Rungis se transmettent de père en fils depuis 1850 et même avant leur entreprise. Je pense à la famille des maîtres, je pense à Vincent Omer de Cugis, je pense à tous ces grossistes, à Demarne, l'entreprise Demarne. Et ça, c'est très intéressant parce que les jeunes n'ont pas les deux pieds dans le même sabot. Ils ont souvent fait des écoles et ils reprennent l'entreprise et ils la développent.
Parfait, très bien, c'est rassurant. Cultival.fr pour visiter Rungis, à partir de combien de personnes on peut visiter?
À partir d'une personne, c'est ouvert aux particuliers.
Très bien. Cultival.fr, voilà, si vous mangez un fruit frais, un légume frais, un poisson acheté ce matin chez votre poissonnier de quartier, si vous dégustez un bon steak au restaurant ce midi, bah, il y a de fortes chances qu'avant de vous faire un clin d'œil, il soit passé par Rungis, il a ressenti l'âme de Rungis. Merci messieurs de nous avoir donné envie de visiter Rungis et puis surtout de privilégier encore et toujours des produits frais français. Merci Thibault Manchon, merci Monsieur Stéphane Layani d'être passé par ici aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Bonne journée à tous les deux.
France Bleu Paris.